Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 21e épisode, épisode numéro 20. Nous sommes le 29 octobre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous ?
Bonjour à tous, je suis Alexandre, je travaille chez Clever, je suis dev et je fais aussi un peu d'ops et d'infra, de temps en temps quand il faut.
Je suis aussi accompagné de Victor Balu. Bonjour Victor Balu, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Victor du coup et je travaille également chez Clever Cloud. Je travaille plutôt sur les métriques et je fais de la recherche sur l'IA.
Et je suis accompagné de Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis l'homme de l'ombre de Clever Cloud, je suis le fournisseur de Legacy de Clever Cloud.
Pourvoyeur de Legacy.
Pourvoyeur de Legacy.
Vous comprendrez homme de l'ombre si vous regardez ce podcast sur YouTube.
Ce qui est, c'est vrai souvent que les blagues visuelles sur un podcast, ça ne marche pas bien.
Ça ne marche pas très bien. C'est néanmoins très drôle. YouTube, pouce bleu, abonnez-vous, voilà. Commençons tout de suite par, comme d'habitude, des choses pas forcément très techniques, mais qui nous concernent un peu. Nous allons parler droit du numérique aujourd'hui, puisque nous avons Victor qui, en plus de s'occuper de d'IA et de métriques, s'occupe un peu aussi de légal et de... Ouais, tu t'occupes un peu de ce qui est... Enfin, il y a quelques temps pour faire ça, mais tu t'occupes un peu de ça.
Ouais, disons que je regarde un peu parce que ça touche aux données et puis bon, je travaille pas mal avec les données. Et on a eu une décision de la Cour de justice européenne le 6 octobre qui nous intéresse pas mal parce que ça parle de la rétention des logs de connexion. Et on a eu pas mal de débats en interne justement pour savoir combien de temps on devait légalement conserver nos logs, les logs de nos clients.
Alors, logs de connexion, c'est les access logs, qu'on soit d'accord, qui est le truc que tu peux récupérer avec la CLI dans Clever, et c'est le truc avec tous les petits points sur la carte.
Exactement.
Enfin, ces logs-là.
Exactement. Et en fait, c'est parti de plusieurs remontées auprès de différentes cours de justice dans différents pays d'Europe, et notamment en France, par la Quadrature du Net, d'une problématique, d'une question qui, pour eux, certains États comme la France demandent une conservation trop longue et disproportionnée par rapport à ce qu'ils appellent la directive vie privée et communication électronique de l'Union européenne. Et pour eux, pour se conformer à cette directive, il faudrait réduire, voire complètement supprimer la rétention, et en tout cas pas la faire de manière généralisée. Et la décision de la Cour du 6 octobre là, donne raison à ces différents collectifs, notamment donc à la Quadrature du Net, mais elle est quand même assez compliquée et dure à interpréter. Mais en gros, voilà, ça donne raison. Mais pour l'instant, personne ne s'avance trop pour savoir comment ça allait être transcrit dans le droit français et comment on va l'appliquer dans les diverses entreprises. Voilà. Donc nous, pour l'instant, on ne change pas grand-chose, mais on est au courant que ça existe, quoi.
C'est parce qu'il y a plein de corner cases à gérer ou c'est quoi?
Alors, c'est parce que l'argument des États, ça relève de la sécurité nationale qui n'est pas une compétence européenne. Et donc, du coup, c'est une compétence des États. Et la grande question à laquelle devait répondre la Cour européenne de justice, c'était est-ce que oui ou non elle était compétente pour... et oui ou non, la rétention des logs, ça rentrait dans ce cadre de sécurité nationale, et elle a répondu non, de manière générale, oui, dans certains cas particuliers. Et en gros, les cas particuliers, c'est quand ça ne concerne pas de la rétention généralisée et pas du tout individualisée, c'est-à-dire qu'on prend tout pour tout le monde sur, de manière sans faire de tri, de présélection et sans décision. Alors du coup, ils ont quand même conditionné la décision en expliquant que dans certains cas, sous la décision d'une autorité compétente et indépendante qu'il va falloir mettre en place, du coup, donc ça va sûrement être un juge ou une autre autorité administrative, on peut faire la collecte et de la rétention généralisée, mais il faut que ça soit limité dans le temps. Et puis sinon, devoir être fait pour pour de la rétention sélective, voilà. La réponse a fait plusieurs dizaines de pages, et donc du coup, pour l'instant, il y a plein de juristes qui essaient de la comprendre un peu plus en détail. Mais en gros, moi, déjà, j'ai déjà compris ça. comme ça.
Voilà. Et pour comprendre mieux, du coup, tu proposes un autre lien qui est un article du Monde qui résume. Bon, il résume. Faut attendre l'application au droit français, de toute façon, j'imagine.
Oui, mais il présente bien les enjeux et tout, c'est pas mal.
Ok. Judu et Alex ont un avis sur...
Non, rien à dire.
Sur les logs, les access logs qui sont stockés chez nous dans Warp 10.
Dans Warp 10. Bon, de toute façon, faudra attendre.
Non, je sais pas.
Et puis...
D'un point de vue technique, d'un point de vue technique, nous, ça nous économiserait pas mal de place si on a moins à les garder.
C'est sûr.
Après, si on doit être capable de sélectionner juste pour une partie des personnes selon une décision de justice pendant un certain temps, il va falloir faire un petit travail de logiciel, quoi. Enfin, je sais pas trop. C'est plus facile de tout garder, quoi.
Ouais, puis apparemment, ce que tu disais, c'est que de toute façon, t'as pas le droit de trier en amont.
Non, voilà.
Parce que du coup, c'est hyper discriminant. Ou... C'est pas normal. Ça veut dire que c'est de la surveillance, en gros, quoi. Si tu dis, je vais uniquement garder les access logs de telle IP, ça veut dire que t'es en train de surveiller quelqu'un.
Bah, faut que ça se fasse une décision de justice, quoi.
C'est ça. Ouais.
Ok, alors on passe au lien suivant. LinuxFR. Le Conseil d'État reconnaît que le gouvernement US peut accéder à vos données de santé. On en avait parlé un peu dans les épisodes précédents, le Health Data Hub. Ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter. Ça a commencé à faire pas mal de bruit dans les journaux un peu plus généralistes. Et en gros, le Conseil d'État dit valide les angoisses et les questionnements des gens sur le fait que Health Data Hub soit hébergé par une entreprise américaine, même si c'est sur le sol français. Victor Balu, c'est un de tes liens.
Ouais. En fait, au mois d'octobre, on a pas mal de décisions un peu juridiques sur la donnée. C'est assez riche à ce niveau-là. Et donc là, encore une fois, il y a eu la question qui se posait sur le choix très controversé, du coup, de Microsoft comme hébergeur de données de santé et agrégateur de données de santé. En plus, ça a été accéléré à cause... de la crise sanitaire actuelle. Et donc, il y a le Conseil d'État qui reconnaît que, du coup, le gouvernement américain peut accéder à nos données selon leur droit local qui impose aux hébergeurs de collaborer, voilà, avec la justice. Alors, Le Conseil d'État ne dit pas que ça va être regardé par les Américains. Il dit juste que, au vu du droit américain, c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc du coup, ça répond pas aux exigences de privacy européenne. Et donc, ça, c'est une décision qui est intéressante. Par contre, c'est pas une décision qui dit qu'il faut arrêter de bosser avec le Health Data Hub. C'est une décision qui dit qu'il faut des garanties supplémentaires. Mais que ça peut continuer.
C'est à mettre en parallèle. Le Conseil d'État a reconnu ça quand l'Europe, via, alors je sais plus comment ils appellent ça, Schrems 2, et une décision du Conseil de surveillance, de la Cour de justice, la Cour de justice européenne, le 16 juillet 2020, quand ils ont dit, le Privacy Shield, en fait, ça ne marche pas. À partir du moment où le Privacy Shield ne marche pas, qui était censé protéger les entreprises européennes du côté extraterritorial de la loi américaine, à partir du moment où ça ne marche pas, toutes les boîtes américaines, à cause du Cloud Act, que ce soit hébergées en France ou pas, à partir du moment où l'entreprise est américaine, effectivement, possiblement pourrait se regarder les données des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est lié à la fin du Privacy Shield, en gros.
Disons que ça accentue quand même vachement le truc, parce que, en vrai, chaque entreprise, chaque exploitant étranger peut passer un contrat avec une entreprise européenne pour l'exploitation hors territoire européen, mais ça complexifie les procédures. Et, Puis du coup, ça risque de ne pas être reconnu par les régulateurs, la CNIL et tout ça, à cause de la, du droit américain, dont j'ai oublié le texte, qui permet de regarder un peu tout ce qui se passe, quoi.
Le Cloud Act.
Exactement, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est que le Privacy Shield, en fait, c'était censé être un truc qui se généralise à tout le monde, qui ne marche pas et qui a été reconnu comme étant caduc. Et qui était d'ailleurs la deuxième version d'un accord précédent qui avait aussi été reconnu comme caduc. Et en pratique, ce que tu dis, c'est que tu peux passer un agreement particulier d'entreprise à entreprise, mais du coup, ça implique de le faire à chaque fois pour tout et d'être très 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 spécifique. Et même comme ça, en fait, en vrai, on n'a pas de garantie, quoi. Voilà. Judu, Urka. Lien suivant. Usine Digitale, annulation du Privacy Shield, Cédric O veut rapatrier le stockage du US Data Hub en Europe. Alors en Europe ou en France, je ne sais plus ce qu'il a dit. Ça aussi, c'est toi, Victor.
Ah ouais, oui, sûrement. Bah, j'étais dans ma lancée là.
J'étais dans le thème.
Ouais, c'est... Alors oui, donc du coup, toujours sur le même thème, vu que ça a fait quand même beaucoup de bruit, cette histoire d'hébergement des données des Français par un acteur américain, bon, face à toute la grogne que ça a engendré, voilà, Cédric O et globalement le gouvernement commencent à évoquer à deux mots moins en moins petits l'idée d'utiliser des acteurs européens pour héberger la donnée. Donc voilà, ça c'est l'unique info de cet article. Mais c'est assez intéressant parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Je trouvais que c'était une info intéressante parce que c'est quelque chose qui fait qui fait beaucoup débat en ce moment, qui remet en perspective avec tout ce qu'on disait justement précédemment par rapport à la relation qu'on a avec les Américains sur nos données. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on a quand même en France un des plus grands datasets de données de santé, un des plus qualitatifs aussi au monde, et qu'il est hyper valorisé et valorisable. Et un autre argument qui est très fort et qu'on ne dit pas souvent en faveur du fait de garder la donnée sur le territoire européen, c'est que les États-Unis font beaucoup d'intelligence économique. Et ça serait dommage de perdre un peu la main sur toutes ces données qui sont si chères, si valorisables et qui permettraient beaucoup, beaucoup de découvertes avec une meilleure exploitation. En plus, en France, où j'espère qu'on pourra, à moindre frais, laisser quelques universités l'utiliser ou des choses comme ça.
C'est tellement mignon le terme intelligence économique.
Ouais. Mais bon, ça serait pas la première fois qu'ils nous font le coup. Et voilà.
Puis il y a anecdote un peu marrante. Mon père, la semaine dernière, s'est fait poser un défibrillateur interne. C'est un genre de pacemaker, mais qui n'agit que en cas de crise cardiaque, quoi. Et toutes les nuits, le truc se synchronise pour envoyer les données de la journée sur les battements de cœur, en gros, enfin bref, sur l'électrocardiogramme. Et on lui a dit que c'était envoyé une boîte aux États-Unis pour le traitement, parce que en France, on ne sait pas faire. Ça m'a vachement rappelé les débuts de l'application Stop Covid, où l'hébergement de ce machin-là, il n'y a aucun acteur français qui est capable de le supporter. Et voilà, il y a quand même un discours de... Oui, de toute façon, ils savent faire, on va leur donner, alors que non, la vraie question, c'est... Une fois que tu as toutes ces données-là, Si toute la France envoie les données de ces trucs-là aux États-Unis et les garde pas, forcément les États-Unis vont pouvoir faire de l'intelligence économique quoi là-dessus.
Du coup, c'est là que c'est intéressant. C'est même si là, l'État va être obligé d'héberger les données du Data Hub en France ou en Europe, au moins ça pourra montrer que en fait ça marche, c'est possible, et du coup pour d'autres usages, peut-être qu'on peut le faire aussi en fait, et que ça pose pas de problème. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le côté IBM où dans le doute, si je choisis Amazon ou Microsoft, personne va m'en vouloir, de toute façon tout le monde fait ça, quoi. Et du coup, même sur des trucs des données de santé, c'est quand même ultra triste.
C'est faux. pas être aussi tranché. On est obligé de reconnaître que le catalogue d'Amazon ou le catalogue de Microsoft est quand même vachement plus étendu que celui de la plupart des clouds européens ou même chinois ou russes. Parce que on rappelle que le cloud c'est du soft et qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs pour faire beaucoup de soft et que donc ils ont un catalogue très 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 vaste. Et on a un atavisme en tant que dev où on se dit je peux le faire. Donc forcément, tu te dis c'est supporté parce qu'évidemment je peux le coder. Et c'est là où c'est compliqué. Il faut pas non plus être blanc ou noir et se dire que quand on te propose un truc clé en main et que t'as pas le temps, tu te dis ok, on va apprendre ça. Et ces décisions, la plupart de ces décisions sont prises avec en tête la notion de timeline, la notion de quand est-ce qu'il faut que je le fasse, la notion de à qui je vais demander de le faire, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc pourquoi pas?
C'est la notion de temps qui est un peu dommage. On peut imaginer qu'il manque peut-être une brique ou deux pour faire fonctionner ça sur une offre européenne. Et avec plus de temps, tu peux dire on investit pour développer le système. Et voilà. Mais ça, si tu n'as pas le temps.
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent public européen? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas l'investir dans une intelligence locale et quitte à que ça prenne quelques mois en plus, mais au moins on fait vivre une industrie en Europe. Et justement, ça nous permettra après de combler les manques et en contrepartie, gagner un peu en assurance. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a installé des acteurs dans une architecture très complexe et tout, faire une migration, changer de cloud et tout, c'est des trucs qui sont hyper compliqués. Et puis une fois qu'on aura fait, par exemple, je sais pas trop ce qu'on va en faire des données en termes épidémiologiques et tout ça du Health Data Hub. Mais une fois qu'on a construit des architectures de détection de diffusion de pandémie, par exemple, une fois qu'on a construit des systèmes d'alerting, une fois qu'on a construit tout un écosystème logiciel autour de la donnée, sous tel format, dans telle base de données, changer, c'est d'autant plus lourd, en fait. Et c'est un peu... alors que parfois, faut mieux mettre un peu plus de temps, disons 6 mois, 1 an de plus, mais au moins, pas avoir à rechanger, quoi. Et pas perdre 1 milliard au passage.
GaiaX va nous sauver, puisque un des buts de GaiaX, c'est de faire le cloud industriel et du coup d'avoir effectivement des verticales très spécifiques quand tu stockes de la data. Donc tu auras un vertical santé, tu auras un vertical, IoT, voiture, je ne sais quoi. On en saura un peu plus d'ici 3 semaines, puisque normalement il va y avoir plein de choses annoncées côté GaiaX sur ce genre de sujet. On verra. La question que j'aimerais bien se poser dans ces cas-là, c'est de toute façon, si on veut le garder chez nous, il faut qu'on fasse l'effort de le faire. Alors ça va nous coûter plus de thunes et il va nous falloir un peu plus de temps, mais de toute façon ce serait quand même bien que ce soit chez nous. Faut balancer les deux besoins. Ok, on va laisser tomber la politique et l'économie et on va passer c'est un peu de la politique quand même, mais c'est de la politique open source. On va discuter de la stratégie éditoriale de MDN, c'est le Mozilla Developer Network, qui, si vous êtes développeur avec des techno web, globalement beaucoup de gens sont concernés, vous connaissez probablement MDN.
Et c'était un de mes liens, et c'est clairement une des meilleures sources en tout cas pour s'informer sur les API web et CSS et HTML. À part des sujets spécifiques où des fois on peut tomber sur des blog posts qui vont plus en détail, mais sinon ça reste vraiment un très bon point de départ en tout cas. Et donc Mozilla publie un article ce mois-ci qui parle de la stratégie éditoriale de MDN et d'une volonté d'encourager la communauté à participer au maintien et à la mise à jour de MDN. Et donc, leur but, donc c'est vraiment d'encourager la communauté à participer. Ça se fait de différentes façons. Notamment, ils vont continuer à améliorer tout ce qui est article d'explication sur comment on participe, sur ce qui est attendu, etc. Et ils veulent aussi changer le workflow. Actuellement, c'est un wiki donc basé sur une base de données gérée par Mozilla, et ils veulent passer sur un système à base d'un dépôt Git hébergé sur GitHub, et ça va être de la génération de sites statiques derrière. Voilà, c'est une bonne idée, je pense. On est quand même sur quelque chose orienté dev, donc les devs ont quand même vachement plus l'habitude de participer à des projets sur GitHub que sur un wiki spécifique. Donc c'est quand même plutôt sympa, ça, je pense. Et sinon, il y a aussi une volonté d'aller un peu plus loin dans ce que couvre MDN, donc en plus de juste le côté spec, des API web, etc., d'aller un peu plus loin sur les sujets de performance, de sécurité et d'accessibilité. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Après, on peut se poser la question de est-ce qu'ils font ça pour que la communauté participe plus et qu'il puisse y avoir moins de personnes de Mozilla qui bossent directement sur MDN. C'est possible aussi, vu les changements récents. Allons savoir, mais je pense que c'est pour le bien en tout cas. C'est cool qu'il y ait vraiment cette idée d'amener le projet encore plus loin. C'est déjà quelque chose de très bien aujourd'hui, ça peut être que du mieux.
Donc, changement récent, rapidement, c'était pas mal de layoffs côté Mozilla et ils commencent un peu tous à retrouver du taf, notamment toute l'équipe WASM, donc WebAssembly, qui est, alors peut-être pas en intégralité, mais ils sont beaucoup à avoir rejoint. Cloudflare, je crois.
C'est Fastly, je crois.
Fastly.
Je crois c'est Fastly.
Pour faire du WASM, c'est Fastly.
Ouais, moi, j'avais pas trop suivi. Enfin, j'avais juste vu qu'il y a eu un gros départ chez Mozilla. Mais ils avaient. Mais pourquoi ils avaient supprimé autant de postes là? Ils avaient plus de thunes.
Ouais, on sait pas. En vrai, on n'a pas trop su pourquoi, parce qu'ils avaient plus de thunes. Mais derrière, ils ont re-signé l'accord avec Google pour. Parce que Google leur file du pognon en fonction de la quantité de recherche que les utilisateurs de Firefox font en utilisant Google. Mm-hmm. Donc on n'a pas vraiment eu le détail. Évidemment, ils disaient on vit dans un monde qui change. La pandémie a accéléré beaucoup de changements et nous devons donc nous séparer de gens. Là, je te fais la version très résumée. Donc effectivement, c'était probablement pour des raisons éco.
Il y avait une volonté de se recentrer sur des projets qui peuvent potentiellement ramener de l'argent plutôt que sur des trucs qui en coûtent uniquement, même s'il en reste, mais il y avait un peu ce côté-là, genre essayons de faire quelque chose qui a moyen d'être rentable sans qu'il y ait trop d'aide extérieure. C'est un petit peu le truc, ce qui est une bonne idée, quoi.
Ce qui est une bonne idée, c'est qu'après, du coup, ça... enfin, un peu comme Google, où c'est la partie pub qui ramène du blé et qui finance les autres trucs, si Mozilla arrive à avoir une partie qui finance bien plein d'autres choses... C'est entre guillemets réduire pour mieux repartir, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, pour MDN, ça veut dire peut-être moins de contributeurs côté Mozilla et peut-être plus de contributeurs à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est une doc assez géniale. Ça fait partie des deux docs de référence. On en parlait un peu avant le podcast. Il y a la doc de Arch Linux quand on fait un peu de système, un peu Linux qui est génial. Il y a la doc de Gentoo quand on triture un peu le kernel qui est génial. Et quand on fait du web, il y a MDN, quoi. C'est plutôt une. On va accueillir ça comme une bonne nouvelle. On va voir comment ça se passe en pratique. Et du coup, c'est beaucoup de décentralisation, transition toute pour Ave, pour parler de Mobilizon. Mobilisons les groupes Facebook libres et décentralisés. Alors, groupe Facebook, ça implique que tout le monde utilise Facebook et que les gens fassent des groupes que dans Facebook, mais globalement, les groupes, les events, les pages, etc., des réseaux sociaux, des gros réseaux sociaux, je ne sais pas comment les appeler autrement, à fort part de marché, sont disponibles dans Mobilisons, qui est un peu la version distribuée de tout ça, un peu le mastodon de Twitter.
C'est ça. Donc c'est une application qui a été développée par Framasoft. Donc Framasoft, c'est une association qui promeut l'utilisation des logiciels libres, une association française et francophone en tout cas. Voilà. Et alors le lien qu'on a mis, c'est une user story donc de Mobilisons. L'idée, c'est que Framasoft, pour promouvoir les logiciels libres, héberge un certain nombre de ces logiciels-là. Et propose toute une documentation pour auto-héberger aussi ces services-là. Alors souvent, ils prennent des projets qui sont un peu à gauche à droite, faits par des gens dont c'est pas forcément le boulot, Et on se retrouve avec des tas de PHP un peu bizarres à configurer ou de Python un peu bizarres à configurer. Voilà. Parfois, ça donne. Enfin, je sais mon avis personnel, mais il y a certains projets où je trouve que ça fait très amateur, quoi. Certains des projets, c'est-à-dire que ce qui est hébergé chez Framasoft, ça va parce que ils ont fait tout le boulot pour que ça tourne bien. Mais quand on essaie de le faire tourner soi-même, on sent qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément incroyables. Donc ça c'est la plupart des projets qui sont propulsés par Framasoft et qui sont en fait des projets qui existent par-ci par-là, qui sont faits par une bande de potes parfois dans un coin. Et voilà, là mobilisons vraiment Framasoft s'est dit on va faire nous-mêmes le projet.
Sans dire amateur, le sujet que nous on a en tant qu'hébergeur qui font la promotion de l'immutable infrastructure, qui est un peu la façon dont on déploie les choses correctement sur Clever Cloud. Et je viens de faire un truc très radiophonique puisque je viens de mimer les guillemets avec mes doigts, donc quand je dis correctement, donc entre guillemets correctement, et que effectivement la plupart des projets qu'on a trouvés chez Framasoft n'ont pas vraiment la fibre de l'immutable infrastructure et sont plus orientés déploiement à l'ancienne, je mets SSH sur la machine et je fais des trucs dessus et après je m'en vais. Et quand tu as une SLA de cloud qui peut rebooter ta machine parce qu'il faut mettre un truc à jour ou parce qu'il ton cloud a décidé de rebooter ta machine parce qu'après tout pourquoi pas, du coup ça marche moins. Et c'est vrai que la plupart des projets, on a eu quelques soucis là-dessus pour les déployer chez Clever, et c'est triste. Si tu rajoutes à ça le fait qu'ils ont quand même une grosse tendance à écrire sur le file system et pas sur un object storage, voilà, nous on a eu quelques soucis.
C'est ça. Et là, bonne nouvelle, c'est l'application donc faite par Framasoft, c'est un truc qui a été fait en 2019-2020, ils sont partis sur du Phoenix, qui est un framework HTTP, enfin web, si je dis pas de bêtises, qui est écrit en Elixir. Elixir, c'est un genre de dérivé d'Erlang, donc qui tourne sur la VM Erlang, si je dis pas de bêtises, toujours, normalement c'est ça. Voilà, le front-end, c'est du Vue. Voilà, et j'ai commencé à regarder un peu la doc pour le déployer, mais j'ai pas eu le temps hier. Mais a priori, potentiellement, il y a juste moyen de git push sur Clever Cloud et ça tourne. Donc moi, ça me fait plaisir parce que pour le coup, ça fait un peu nouvelle techno qui respecte nos bonnes pratiques, enfin, les bonnes pratiques du cloud en général qu'on essaye de propulser chez Clever Cloud. Et il y a un truc que j'ai bien aimé dans la release de Mobilizon. Donc en gros, ça vous permet de faire des groupes, un peu comme justement, enfin, pour s'adresser au public français, ils ont vachement parlé des groupes Facebook parce qu'en France, on est quand même très Facebook et pour ce genre de choses. Donc on peut faire des groupes, des genres de pages, des événements, etc., avec des fonctionnalités un peu plus intéressantes, enfin plus de fonctionnalités que ce qu'on pourrait avoir sur Facebook justement. Et il présente tout ça avec un article de blog qui fait une user story très très bien écrite avec un personnage qui est en fait plus ou moins la mascotte de Mobilizon. Ce personnage qui a envie de s'inscrire à des groupes, qui a des activités par exemple de militantisme et à côté a envie d'organiser un anniversaire pour sa tante. Et ça permet de proposer un certain nombre de fonctionnalités, le fait que ça soit décentralisé, que tu t'inscris sur une instance et avec ça tu vas t'authentifier sur toutes les autres instances pour pouvoir accéder aux différents événements. Tu peux avoir plusieurs profils pour un même compte qui soient complètement décorrélés, c'est-à-dire que tu peux t'inscrire à l'événement organisé par le MEDEF par exemple avec un profil où t'es en costard cravate et tu peux aller coller des affiches la nuit dans Paris avec un profil où t'es en roller avec les cheveux colorés, quoi. C'est bon, j'ai suffisamment fait de...
t'étais pas obligé de voilà. Des gens comme ça. Il y avait aussi la partie j'ai un hoodie et je suis un hacker, tu vois.
Ouais, c'est ça, par exemple. Donc voilà, donc des profils, donc on peut avec un même compte et plusieurs profils décorréler ces différentes activités en ligne. Voilà, alors ça c'est un des exemples. Je vous invite à lire toute la story, elle est super intéressante. Et en fait, en lisant, je me dis parfois pour présenter Clever Cloud, j'aimerais bien avoir un article aussi bien écrit avec des petits dessins et une story aussi claire. Ça, c'est la petite pique pour Laurent. Non c'est un peu le boulot.
Je vais essayer de ne pas le prendre personnellement. Je te rappelle que je ne fais pas de marketing.
Mais non, ouais, mais bref, c'est une réflexion. Je me suis dit, c'est une réflexion qu'il faudrait qu'on ait ensemble, quoi, en équipe.
Absolument. Et par ailleurs, on prend les feedbacks des gens aussi pour ce genre de choses. Donc voilà, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas, on essaiera de les rendre un peu plus clairs. C'est vrai que des fois, ça va un peu plus loin que juste dire « Bonjour, nous sommes CleverCloud, nous sommes hébergeurs. » Enfin, des fois, tout le temps, en fait. Donc, c'est pas évident d'adapter les discours en fonction de
Mais voilà.
Si on a. Tu vois, par exemple, quand tu parles à Maître Eolas, tu dis, bah, là, tu dis « Je suis hébergeur », et quand tu parles à la Maïf, là, tu dis que t'es un cloud. Bon, ben, avoir un truc qui couvre les deux et tout ce qui est au milieu, ben, c'est pas facile.
C'est vrai.
Anyway.
Voilà, et donc, je sais pas, c'est un projet qui est assez sympa, le logiciel a l'air de qualité, et voilà, j'espère que ça va prendre.
Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, arrêtez de faire du PHP et faites du Elixir, s'il vous plaît. Voilà, c'est globalement ce que Julien vient de vous demander.
Avec des docs, avec des petits dessins en photo.
Avec des petits dessins en photo, avec du Postgre et pas du Mongo, et voilà, soyez chic.
Vous pouvez faire du PHP, mais juste n'écrivez pas sur le file system, s'il vous plaît.
Voilà.
Et c'est tout.
Absolument. Et vous pouvez faire du PHP Z aussi. Voilà, je laisse ça comme ça, et vous verrez. Moi, ce que je trouve cool, c'est surtout que c'est décentralisé. Et pour revenir un peu au sujet qu'on avait avant, si le S-Data Hub était décentralisé, ce serait cool aussi, tu vois, qu'il n'y ait pas les infos de tout le monde au même endroit, parce qu'en général, ça finit par poser des problèmes.
Je suis assez d'accord avec ton analyse de Framasoft en général. Je trouve ça un peu dommage. Et du coup, j'aimerais bien que... Enfin, espérons que ça soit une voie un peu plus, disons... structurés dans leur développement de logiciels, parce que ils ont souvent une analyse assez pertinente des enjeux de société, et ils essayent de s'attaquer à des problèmes assez importants. Et souvent, du coup, cette image un peu que tu décrivais, alors avec des mauvais mots d'amateur, ça, je trouve que ça porte un peu ça freine un peu l'adoption des softs qu'ils proposent.
Mais en fait, quand
alors que c'est des softs qui sont vraiment cool, quoi.
Quand je dis amateur, c'est parce que il y a certains logiciels qui sont littéralement écrits par des amateurs. C'est-à-dire que Mobilizon, il me semble que c'est vraiment le premier projet entièrement développé, pensé, conçu par Framasoft. Parce qu'à la base, Framasoft, ouais, ils prennent du Nextcloud, enfin, ils prennent des outils qui existent déjà, qui ont été faits par des gens avec des qualités complètes, enfin, très disparates d'un projet à l'autre. Et en disant, bah, vous allez remplacer Google par ça. C'est très bien de faire ça, mais parfois ils prennent des projets qui sont pas d'une qualité incroyable. Et là, j'applaudis justement le fait que ils se disent, il y a ce besoin-là, et en fait, il y a rien de ouf pour répondre à ce besoin-là, et donc on va le faire nous-mêmes. Et je trouve que c'est un premier pas dans une direction que moi j'approuve. Après, qui suis-je pour approuver?
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais après, il y a des projets amateurs, toi, il suffit juste de mettre une exigence de qualité pour la participation, comme tous les projets libres, en fait, où il y a beaucoup de participants qui interviennent sur leur temps libre dessus, hein, que ce soit des systèmes d'exploitation Linux ou d'autres choses. Hein, ça peut être, enfin, toute la moitié de l'open source, à part ceux qui bossent pour des fondations, c'est des amateurs éclairés, disons. Ouais. Et vu qu'il y a des exigences de contribution qui sont très très strictes, déjà, s'il y avait une uniformité du format, enfin, par exemple, on parlait du file system pour l'écriture, enfin, de ne pas écrire ce file system justement, ou des trucs comme ça, et ben, ça permettrait d'avoir une cohérence entre les différents softs, en fait. Et déjà, rien que proposer une cohérence dans les softs, ça serait déjà simple.
Ouais, mais la problématique, c'est que Framasoft n'est pas propriétaire, entre guillemets. Ils sont peut-être contributeurs, mais la plupart des logiciels proposés par Framasoft en mode cloud, là, en hébergement ou à auto-héberger, ils servent juste de vitrine à des projets qui ne possèdent pas et sur lesquels ils n'ont pas forcément les moyens de mettre ces exigences, quoi. C'est plus ça mon... Oui, quand j'ai dit amateur, c'est plus ça que j'entendais là-dessus.
Et on rappelle que nous sommes dans le monde merveilleux de l'open source et que parfois, au lieu de gueuler, on peut contribuer. Donc voilà.
Non, mais voilà, ce qu'il faut
retenir. Et c'est trop cool.
Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils bossent énormément sur plein de sujets, même de société, hein, et que c'est très intéressant ce qu'ils font à chaque fois et leur avis est très extrêmement pertinent.
Effectivement, ben voilà, nous sommes le 29 octobre, un reconfinement a été annoncé hier, et à l'aube du premier confinement, Framasoft avait beaucoup aidé pour tout ce qui est travail en ligne, école, etc. Et donc ça, c'est vraiment cool, pour se passer de, pour dégoogliser les internets, se passer des...
C'est ça. Et d'ailleurs, ils se sont fait avoir, parce que Mobilisons devait sortir au début de l'année 2020, je pense mars-avril, un truc comme ça justement, ou mai peut-être. En tout cas avant l'été il me semble, et ils se sont fait avoir parce que toutes leurs équipes se sont retrouvées à devoir éteindre des feux parce que le gouvernement a dit si vous voulez faire des visios, bah allez tous sur Framatalk, et donc ils se sont pris plein de gens qui connaissaient pas Framatalk qui ont commencé à venir dessus, et ils ont dû éteindre des feux, enfin voilà, mettre tout le monde, toutes leurs équipes sur le coup pour pouvoir gérer l'afflux de Français qui a commencé à utiliser les outils de Framasoft. Et c'est dommage, enfin c'est dommage, c'est bien, ça fait découvrir à plein de gens que ça existait, mais voilà, et c'est ça qui a retardé la sortie de Mobilisons de quelques mois. Bon, en plus des problèmes,
du coup, bientôt on fera des Framapéro.
Tu pourras les organiser sur Mobilisons,
voilà. Et il faudra surtout pas se planter dans l'heure que tu annonceras à tes camarades pour ton Framapéro, ce qui est une super transition pour le prochain lien, ou pour la série de prochains liens. On a eu quelques tickets au support sur des problèmes de time zone. Et ces problèmes de time zone sont en fait liés à un changement dans la GIPC. Quelqu'un veut-il s'emparer du sujet?
Je prends. Vas-y. Alors c'est pas que dans la GLIPC, c'est un changement de TZ Info, enfin d'un truc qui est dans GLIPC et dans TZ Info, qui est un... C'est Zeek, non, qui est l'outil, ouais, je sais même plus quel est le truc source, mais bref.
A priori, de ce que... Alors je te répète ce que Marco m'a dit. Ils sont en train de virer des trucs de GLIPC qui n'ont rien à faire là, mais ils étaient là depuis longtemps, et à un moment donné, il faut cleaner, il faut enlever des trucs qui vont être dans des librairies séparées. Et effectivement, tu avais TZ, qui était l'outil utilisé par la GLIPC pour savoir dans quel time zone on est et quelle heure il est. Il est en train d'être extrait de ce truc-là. Et tu avais deux formats de fichiers de conf, entre guillemets, de time zone. Et il y a eu des changements récents qui ont fait que les gens qui se reposaient sur l'ancien format, globalement, se retrouvent à avoir des problèmes.
Ouais, en fait, il y a eu un passage non prévu, enfin, pas suffisamment prévu en tout cas, entre FAT et SLIM. Donc le format FAT était le format où, en gros, le compilateur, donc Zeek, prend les infos de la zone et génère les infos de passage au DST, etc., et toutes les infos des time zones sur un certain paquet d'années à venir, je ne sais pas combien, mais voilà... un gros paquet, ce qui fait que après la lib n'a plus qu'à lire les règles et voilà, sans se poser de questions. Le nouveau format, c'est le format SLIM, qui ne fait que décrire le fonctionnement des time zones, sans du coup tous les cas particuliers vraiment compilés en mode à telle date c'est comme ça et voilà. Donc là, il faut vraiment inférer la réalité à partir des règles. Et le problème, c'est que des softs qui s'attendent au format FAT et qui en fait se retrouvent avec le format SLIM ont eu des soucis du genre, a priori là justement sur la time zone française, on s'est retrouvé en mode DST tout le temps parce que le dernier truc spécifique c'était en 96 et c'était en DST à partir de telle date par exemple. Et normalement si on regarde après la règle, ben, on voit que ça repasse en mode pas DST et on passerait sur le normal, mais là comme il y a juste le truc spécifique de 96, ben, si tu t'attends à lire le format FAT et que t'es en format SLIM sans le savoir, bah, tu dis bah, à partir de 96 c'est DST tout le temps et voilà, et on y reste, et le problème était présent sur plein de time zones, donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce cas là et qui se sont retrouvés en mode encore DST alors que bah, là on a switché sur l'heure d'hiver là, il y a pour nous quelques semaines, pour d'autres pays pas encore forcément, c'est pas synchronisé ça. Et donc voilà, et ce problème était présent sur donc Exarbo, les distribs qu'on utilise, et aussi, et c'est là que ça a plus touché de monde, c'est sur l'image Docker Alpine, qui utilisent bah, du coup le même système. Et donc là, il y a plusieurs personnes qui ont eu le souci en updatant l'image Docker utilisée par leurs apps. Et c'était une très grosse surprise. Donc voilà, donc dans les liens qui ont été partagés, il y a un lien d'une issue TZ d'info, donc utilisée dans Ruby, où notre cher Marco a découvert le souci et l'origine du problème. Et puis il y a aussi un lien, un tweet qui parle du problème dans Go, plus spécifiquement. Et après, bon, il y a différents liens qui évoquent le même problème.
Vraie question pour moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de databases développées en Ruby, par contre en Go il y en a un paquet, il y a notamment etcd, il y a quelques trucs qui sont distribués, qui donc se basent sur globalement l'heure qu'il est pour arriver à gérer la congruence, pour arriver à se mettre OK sur la synchro, et du coup, est-ce que potentiellement ce bug va venir foutre la merde sur toutes les synchros de DB?
On peut supposer qu'un système comme etcd n'utilise que UTC et ne touche même pas au time zone. Je suppose, ce serait vraiment bizarre. Mais si c'était le cas, t'imagines si t'as un cluster de 3 nœuds, il y en a un qui n'est pas sur la même time zone que les autres. Je pense que c'est vraiment chercher la merde et ça serait une très bonne.
Encore faut-il qu'ils tournent sur un système qui synchronise pas l'horloge physique de l'ordinateur avec la time zone. Je sais pas si vous avez beaucoup fait des allers-retours entre un Linux et un Windows sur la même machine. Mais il y a quand même cette problématique de Windows qui va aller écrire l'heure locale sur sur la hardware clock de l'ordinateur, et que Linux après lui bah, considère que c'est de l'UTC et va appliquer, donc on se retrouve avec une ou deux heures de décalage en fonction du temps de l'année là-dessus, et c'est compliqué à gérer quoi.
Ouais, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'à l'époque j'avais beaucoup le problème. C'était vraiment pas pratique.
Je crois pas que ça ait changé beaucoup.
Ouais, c'est un peu dommage.
Je n'ai plus de dual boot. J'ai un Shadow maintenant pour mon Windows.
Pareil, c'est plus de dual boot non plus.
Ouais, je veux un Shadow, mais il y a trop d'attente là. Hein, Shadow.
en fait, voilà, on repart de l'actualité du confinement. On fait une petite parenthèse Shadow. Moi, j'ai commencé mon Shadow au début du premier confinement en me disant, je vais m'emmerder, il faut que je rejoue, j'ai besoin d'une machine, je vais prendre un Shadow. Il m'a donc été livré en mars à la fin du premier confinement. Et donc, il est en train d'arriver exactement la même chose que moi, je pense, Victor.
Mais il y a 6 mois d'attente, ils m'ont dit mars 2021.
Ouais. Eh ben, écoute, bonne chance. Tu vas pouvoir réinstaller un dual boot.
Oui, j'en ai déjà un, mais il est pourri. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et moi, je suis juste impressionné parce que débugger ce genre de truc sur une image Docker en Alpine, ça devait pas être facile.
Bah, surtout qu'Alpine, c'est Muzzle et que Muzzle, c'est pas Glypsy, et du coup, ça doit faire des trucs chelous. Mmh. Bah, tu n'as pas le même comportement.
Enfin, je sais pas, toi, faut se dire, tiens, ça doit être un petit problème de time zone. Enfin, je sais pas, faut y penser, quoi.
Ouais. Disons que ça dépend quel bug t'as, ou c'est effectivement un des tickets qu'on a mis, c'est un ticket sur GDOP je crois, et t'as quelqu'un qui commence par faire un mauvais diagnostic en disant c'est probablement ça, et en fait c'était pas ça du tout, c'est un problème de je crois qu'il dit quand je me connecte à mon VPN ça fait ça, une histoire comme ça, et en fait non, c'est léger.
En fait, c'est un peu le bug de l'an 2000 mais en retard quoi.
C'est ça. Sachant que oui, en fait, les time zones, il y a une petite équipe qui s'en occupe pour le monde entier. Il y avait un article très bien de je sais plus qui, il faudrait qu'on le retrouve.
C'est un monsieur qui s'appelle Paul Egert, qui est monsieur time zone depuis 25 ou 30 ans et contributeur GDPC et qui gère ça avec quelques personnes.
Ouais, et il y avait un article qui expliquait très bien le problème en faisant encore une fois une user story d'un développeur qui décide d'implémenter les time zones lui-même dans son dans son appli, et qu'on appelle à chaque fois pour dire ah mais en fait dans tel pays ils ont décidé que le nord du pays serait un quart d'heure en avance par rapport au sud du pays et il faut que ça soit prêt dans 2 jours. Voilà. Et donc c'est toujours compliqué. Excusez-moi. Et par exemple, en 2018, en novembre 2018, le roi du Maroc, 2 semaines avant le changement à l'heure d'hiver, a décidé bah non, je suis Mohamed VI, on ne passera pas à l'heure d'hiver dans 2 semaines. Et là, bah, il fallait que tous les PC mettent à jour il fallait que les gens qui gèrent la TZ d'info, donc la DB de toutes les time zones du monde entier, mettent à jour dans les temps le truc, et ensuite que les gens mettent à jour sur tous leurs PC, sur tous leurs Android 4, les infos. Et ce qui fait que bah, deux semaines plus tard, il y a un nouveau métier qui est apparu au Maroc, c'est vendeur de montres et de réveils analogiques, quoi. C'est-à-dire que là où les gens vous vendaient, je sais pas, des trucs, des parapluies quand il pleut, bah là, les gens se sont tous mis à vendre des montres. Et c'était incroyable. Il y avait Devox Maroc qui se passait à ce moment-là. Et quand j'ai débarqué, on arrive dans un palace, enfin un hôtel palace, etc., là où se passe la conf. Et à l'accueil, ils ont un réveil en plastique à 2 euros. Enfin, à 200 dirhams. Non, à 20 dirhams, pardon. Posé sur le comptoir, et ça fait un peu bizarre. Et au début, on n'a pas compris parce qu'on n'était pas au courant, en fait. Parce que je pense qu'en dehors du Maroc et des gens de, enfin, et de Paul Egert, personne, tu vois, le monde entier n'a pas trop su le truc, quoi. Et c'est en se pointant, et que là, tu te rends compte que ton portable qui est censé se mettre à jour, il se met à jour, mais il n'est pas à la même heure que l'heure locale. Parce que forcément, ton portable, il se met à jour avec la TZ Data qu'il connaît, quoi. Donc, parce qu'il a été décidé deux semaines plus tôt par le roi. Et voilà, c'était assez drôle. C'était assez drôle parce que le premier jour, on n'a pas trop compris ce qui se passait.
J'ai vécu un petit décalage. On en profite pour faire un coucou à nos copains de xhub.io, le Code Kraken, qui sont les organisateurs de Devox Maroc et qui sont des gens géniaux.
Bon, on remarquera du coup qu'au Maroc, ils mettent deux semaines à revenir sur le changement d'heure, alors que nous, ça fait 5 ans qu'on en parle. Mais
bah, c'est bien pour mais ça que ça fait 5 ans que l'Europe en parle, parce que.
Mais peut-être qu'ils n'ont pas le numéro de Paul machin. Hein.
Non, mais enfin, je pense qu'ils sont au courant que s'ils font un changement, il faut l'annoncer 2 ans plus tôt, quoi.
Pardon.
C'est ça, il faut laisser un peu de temps au soft pour se mettre à jour partout. Sans transition, nous passons au nouveau back-end optionnel pour Rust, pour le compilateur Rust. Maintenant, on peut utiliser CraneLift. Alors, c'est quoi CraneLift déjà, et en quoi ça va changer la vie des gens qui font du Rust?
Alors, c'est quoi? Je ne saurais pas vraiment l'expliquer en détail, mais c'est un back-end de compilation, donc, qui est utilisable dans Rust C. Pour l'instant, c'est encore primitif dans l'utilisation, disons qu'il n'y a pas juste une option, on peut dire, bah tiens, j'ai envie d'utiliser le compilateur avec ce backend là, on n'en est pas encore là, mais ça va venir dans les semaines et mois à venir. C'est un backend qui a un intérêt majeur, c'est qu'il est plus rapide que LLVM, mais attention, il est plus rapide en mode debug, pas en mode, enfin, en mode release, il peut être plus rapide, mais comme il ne fait pas autant d'optimisation que LLVM, il ne faut pas l'utiliser en mode release. Mais en mode debug, donc pour dev, ça permet de gagner entre 20 et 30% de temps. C'est quand même sympathique. Il est notamment, a priori, beaucoup plus rapide quand il y a la compilation partielle. Il est vraiment capable de rebuilder que la toute petite partie qui a changé. Donc ça va être vraiment cool à l'utilisation. Voilà, voilà. Mais bon, du coup, pour l'utiliser, il faut encore attendre quelques semaines, je pense, pour que ce soit vraiment accessible juste avec un flag, quoi.
Ouais. Et oui, pour les gens qui développent en Rust, enfin, pour les gens qui ne développent pas en Rust, justement, quand on fait du Rust, on peut avoir des temps de compilation qui sont très très longs. Parfois, parce qu'il y a une bibliothèque qu'on utilise, parce que quand on récupère une dépendance, on commence par la recompiler. Les dépendances, c'est pas juste des binaires qu'on télécharge. Cargo, donc, est l'outil de build de Rust, va commencer par récupérer le code source des dépendances et les compiler les unes après les autres. Et forcément, il y a certaines dépendances qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des flags. Je pense par exemple à ce, j'en parle régulièrement, mais cet ORM qui s'appelle Diesel, qui par défaut vous permet de gérer des tables SQL qui vont jusqu'à 32 colonnes. Et si on passe à 33 colonnes, il faut qu'on active le mode 64 colonnes. Si on dépasse 32, il faut qu'on active le flag sur Diesel pour avoir le droit d'aller jusqu'à 64. Et en fait, ça double le temps de compilation de cette lib-là. Parce que ça, faut que ça régénère un certain nombre de types pour chacun des cas avec toutes les colonnes, etc. Et effectivement, gagner 20 ou 30% de vitesse sur le développement. Parce qu'après la release, on s'en fiche que ça prenne une heure à compiler. Gagner 20 à 30% de vitesse pour les développeurs Rust, c'est pas négligeable du tout, quoi.
Ouais, c'est déjà vraiment pas mal.
Après, le temps de compilation, c'est du temps que tu perds pas à gérer tes bugs.
Aussi, mais il y a aussi un côté expérience utilisateur où sur certains projets, à chaque fois que tu veux tester un petit changement en mode debug, bah, tu as le temps d'aller te faire un café. Tu finis très très nerveux à la fin de la journée, quoi.
Ouais, mais en général, une fois que tu as compilé, une fois t'es libre, tu les recompiles pas à chaque fois que tu veux
ton truc. Mais je veux dire, même ton projet lui-même, parfois peut mettre un petit peu de temps si c'est un gros projet ou un projet. Voilà.
Ouais, quand t'as quelque chose qui prend une minute à build, gagner 30%, bah, c'est déjà pas mal quand même.
C'est ça. Et puis, plus tu
même
prends
si
de café.
Ça prend que 20 secondes finalement.
Plus tu prends de café à chaque compilation, plus t'es impatient d'avoir la.
Plus tu fais des erreurs après, tu commences à t'appuyer sur les mauvaises touches.
Tu te mets à trembler des mains et tout. Enfin bref.
Ce qu'on rappelle que le principe de Rust, c'est de faire du pair programming avec le compilateur et de faire insulter par le compilateur.
C'est ça.
Mais je l'ai lu, d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler là, ou un jour ou l'autre dans le podcast, mais j'ai lu quelque part que même Microsoft était en train de repasser tout sur Rust, parce qu'ils avaient trop de problèmes de compil.
Repasser tout sur Rust, calmement.
Mais tranquillement, ils commencent, tu vois.
Mais justement, lié à ça, comme on est toujours dans le domaine, Microsoft cherche un ou une ingé pour bosser sur Rust et sur le compilo Rust. Donc pas sur les trucs en Rust fait chez Microsoft, mais vraiment pour bosser sur le compilo Rust. Donc ouais, ils sont quand même assez investis dedans, visiblement, et c'est vraiment très cool qu'ils du coup participent à un projet open source comme ça, qui n'est pas directement lié à ce qu'ils font tous les jours, quoi, on va dire.
Ah, moi,
et ils précisent dans l'annonce que c'est pour bosser sur dans des environnements Windows et Linux aussi. Donc, ils sont toujours vraiment là-dessus et c'est quand même vraiment cool.
Ouais, sur le papier que j'avais lu, que j'ai pas mis en lien parce que je le trouvais pas très sourcé, donc je sais pas s'il est très fiable. Mais le mec, il avait l'air de dire que justement, l'intérêt qu'ils avaient chez Microsoft, c'était... que vu qu'une bonne partie de leur projet était fait en C ou C++ et que bah, parfois il y avait beaucoup de problèmes de mémoire, enfin même souvent, et que je crois qu'il y avait une stat qui disait qu'à peu près 70% des updates Windows c'était pour régler des fuites mémoire ou des problèmes de CPU liés à la mémoire, vu que Rust t'empêche de faire trop de problèmes de mémoire, là, enfin te force à gérer ta mémoire, bon, bah, en général. Je crois qu'ils réfléchissent sérieusement à l'idée d'augmenter leur sécurité en ayant un compilateur plus exigeant.
Ça doit forcément les intéresser. Après, c'est sur le côté tout réécrire.
Non.
Dans Windows, il y a tellement de trucs qui datent de 10 ans et plus que voilà, on n'en est pas là.
Mais... Ils songent à plus en plus développer de nouveaux trucs, mais même des trucs un peu corps. Enfin, après, c'est l'article qui n'était pas sourcé, donc.
Ouais. Voilà, je vais lancer les rumeurs.
Petite rumeur sur le podcast comme ça. Mais je trouve ça intéressant et je trouve que ça va bien dans ce que tu évoquais tout à l'heure là, c'est le fait que Windows en ce moment c'est un des plus gros défenseurs du libre et de l'open source et je trouve ça super bizarre.
Ouais, au début dans les années 90 il y a quand même un mec de Microsoft qui expliquait que l'open source c'était un cancer hein. Voilà, bisous Steve, je crois que c'était Steve Ballmer qui disait ça et ça a bien changé depuis. En parlant de cancer, parlons de Facebook.
Ah.
Bon, c'est pas ouf cette transition. Je suis désolé. Facebook vient de sortir un modèle de, enfin, c'est quoi, c'est un modèle ou une API, je sais pas, de traduction de langue assez ouf, puisqu'il fait une centaine de langues vers une centaine d'autres langues. En général, c'est plutôt on passe par l'anglais et après on voit. Là, c'est vraiment dédié à d'une langue à l'autre. Victor.
Ouais. Ouais. Alors bon, j'ai piqué l'article m'était passé sous le nez, mais bon, dans l'équipe, il a été remonté, donc je l'ai mis dans la liste. En fait, moi, je suis depuis assez longtemps hyper impressionné par le travail de Facebook sur la traduction automatique. Et pour la petite histoire. C'est un article de Facebook sur leur traduction qui m'a orienté sur mon projet de recherche actuellement. Et c'est quand, en 2018, ils ont sorti un papier sur la traduction avec des, enfin sans données parallèles, c'est-à-dire que ils entraînaient juste des modèles avec beaucoup de textes d'une langue définie, enfin quelconque, et puis ça projetait un peu ça créait une sorte d'espace conceptuel du langage en question, et puis ils faisaient ça avec d'autres langues, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de topologie similaire, donc du coup de ces espaces conceptuels, donc du coup en fait en passant par le truchement de cet espace conceptuel, on pouvait par exemple faire du français à l'espace conceptuel, et puis de l'espace conceptuel à l'ukrainien par exemple, et donc bon, c'était pas aussi précis que quand on avait des textes en parallèle, mais ça c'était pas trop sale non plus, et moi cette représentation, enfin le fait, cette émergence d'une sorte de connaissance, de méta-connaissance juste par l'entraînement d'un modèle, moi je trouvais ça hyper impressionnant. Et en fait quand on creuse, on se rend compte que Facebook, ils ont vraiment vraiment beaucoup beaucoup de moyens dédiés juste à la traduction, et depuis une dizaine d'années, même 12 ans je crois, petit à petit ils posent des briques d'un énorme modèle de traduction automatique, et là ils viennent de sortir du coup un modèle qui permet de traduire, comme disait Laurent, de faire la traduction entre 100 langages les uns par rapport aux autres, sans passer par le truchement de l'anglais, comme c'était souvent le cas, pour avoir les meilleurs scores. Et ce qu'il faut voir, c'est que du coup, à chaque fois, anglais, français, français, ukrainien, ukrainien, français, à chaque fois, il faut entraîner le modèle, le faire dans les deux sens. Donc du coup, ce qui fait que ça fait, en termes de calcul, c'est une croissance quadratique, hein, c'est au carré. Et donc du coup, ils expliquaient, là par exemple, ils donnent un peu des chiffres, ils ont besoin pour chaque direction, du coup, pour 10 langages, ils ont besoin de 1 milliard de phrases, quoi. Et donc pour 100 langages, ils ont besoin de 100 milliards. Voilà. Donc voilà, ça se pose là, quoi. Et en fait, c'est l'aboutissement, cet article, d'un cycle d'innovation et de construction depuis, donc, comme je disais, une douzaine d'années, où ils ont construit des datasets de plus en plus gros. Leur article est pas mal fait, l'article qu'on a mis en lien, où ils montrent une petite chronologie des différentes étapes de la construction, où ils ont amélioré des datasets, ils les ont consolidés, ils ont vraiment fait un travail assez extraordinaire de nettoyage de la donnée. Et puis pour les langues les plus rares, en fait, ils ont fait une stratégie assez intéressante où ils regroupaient. Donc voilà, c'est un gros travail de linguiste derrière où on se rend compte quand on lit leur article que la traduction et même le machine learning en général pour des cas d'application aussi, pour que ça soit aussi performant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas juste des statisticiens dans un coin ou des informaticiens dans un coin. On est obligé de travailler avec des équipes de spécialistes. Et ils ont réussi à regrouper du coup les langages par groupe, disons, alors je sais pas comment dire en linguistique, mais unité cohérente avec un socle commun sémantique, enfin je sais pas comment dire en linguistique, mais bon, unité de langage cohérent. Et puis ils ont opéré, enfin ils ont eu une logique où chaque langue entre elles essayait de, enfin dans ces groupes ils ont entraîné les modèles entre eux. Puis après, ils ont pris des langues dominantes dans ces groupes pour faire des sortes de ponts vers les autres groupes. Et comme ça, ils ont réussi à faire croître et croître leur modèle. Et puis après, pour les langues les plus rares, avec lesquelles il y a moins de matériel, ils ont reconsolidé en plus la donnée avec la technique qu'ils avaient développée en 2016 et 2018 qui est de la back translation, c'est-à-dire que ils entraînaient les modèles dans les deux sens, puis après, par exemple, on faisait du français à l'anglais, puis après, on retraduisait la traduction du français à l'anglais en français, on regardait la différence, et puis, en fait, on moyennait les résultats pour prendre le meilleur résultat possible, pour après réentraîner le modèle initial pour l'améliorer, etc. Donc voilà, c'est une accumulation de plein de techniques, et c'est l'empilement de beaucoup, beaucoup de travail sur beaucoup, beaucoup de datasets depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, et qui permet ce résultat hyper impressionnant d'avoir maintenant 100 langues qui peuvent être traduites les uns les autres entre elles sans passer par l'anglais. Et je trouve ça assez assez impressionnant. Voilà.
Ils expliquent d'où ça vient, les datasets, du coup, parce que quand c'est Facebook, du coup, nécessairement, tu te poses la question, mais c'est...
Alors,
c'est des gens, c'est qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y avait des datasets universitaires. Sinon, ils en ont construit aussi.
Ils ont déjà forcément leurs propres données de traduction de Facebook lui-même, en fait. Il y a
oui,
déjà
voilà, pas mal
de données dans l'interface. Et ils ont un système de traduction interne depuis je ne sais combien de temps maintenant. Ça fait trois mois.
C'est celui-là qu'ils utilisent.
Qui est communautaire, où chacun peut participer, etc.
Donc voilà, et puis en fait, ils ont reconstruit d'autres trucs. Et en fait, ils ont pris des datasets déjà existants, leurs datasets à eux. Et eux, ce qu'ils, en fait, ils utilisent cette technologie pour, tu sais, quand tu appuies sur traduire dans Facebook ou dans Instagram ou tout comme ça. Instagram, c'est Facebook, hein. Ouais. Et donc voilà. Et j'ai pas regardé en détail les datasets, pour être honnête, je me rappelle plus, mais bon, ça se trouve, hein, c'est dans l'article.
Bon, écoute, on regardera. Judu, Alex, un avis sur ça, ou on passe au voilà, on passe au lien suivant, qui est le dernier lien, qui est, on va pas beaucoup en parler, c'est juste que ça m'amusait de vous mettre ça. C'est The Economics of Coffee in One Chart. En gros, vous avez un magnifique visuel de comment se partage le prix d'une tasse de café parmi toute la chaîne industrielle. Et comme je sais qu'on est beaucoup à être un peu branché au café. Alors, il y a des gens qui sont branchés au thé aussi. Si vous avez la même infographie pour le thé, on le fera pour le prochain épisode. Ou autre boisson énergétique à base de... ou caféinée, je ne sais pas. N'hésitez pas. Moi, ça m'a fait rire. Donc voilà, on vous met le lien. C'est sur un site qui s'appelle visualcapitalist.com. Ils ont plein de visuels assez amusants. Ils ont plein d'infographies très, très cool sur plein de sujets divers et variés. Donc, je vous invite à jeter un œil là-dessus. On va essayer cette fois de tenir globalement autour d'une heure, et donc je vais procéder au tirage au sort du choix musical. Urcadox est de 1 à 5, Victor Balu de 6 à 10, Julien Durion, vous êtes de 11 à 15, et moi de 16 à 20, et j'ai fait 12, Julien Durion.
Oh oh oh. Alors, je vous ai sorti une musique qui date de 1991, qui s'appelle Crucified.
Une excellente année.
Excellent, c'est vrai. Qui s'appelle Crucified par un groupe qui s'appelle Army of Lovers, qui est un groupe suédois qui fait des trucs un peu chelous. Je vous invite, bon, la musique, moi je l'aime bien, mais c'est peut-être un peu une madeleine. Hein. Mais je vous invite à aller regarder les clips de ce groupe, c'est complètement barré. Il y a eu des rumeurs, alors j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais... l'histoire racontait que suite à ce clip, il s'était plus ou moins fait excommunier, etc. Enfin, c'est un groupe
visuellement intéressant.
C'est visuellement intéressant et c'est un groupe qui fait un peu dans la provocation. Et voilà, moi je trouve que ça envoie du bon gros pâté.
Qui est un truc qu'on ne fait jamais chez Cleverpool, pareil.
Voilà. Et puis l'histoire du groupe est un peu marrante. Un des chanteurs du groupe qui s'appelle Jean-Pierre, si je ne dis pas de bêtises, il est à moitié français, mais il a bougé en Suède. Il s'est retrouvé à travailler dans le salon de coiffure qui coiffe les rois de Suède. Ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, il connaît un peu du beau monde. À côté, il fait du modeling, etc. Et il a un style qui est incroyable. Et ils ont ressorti récemment des clips. Parce que bon, le groupe a cassé, s'est reformé plusieurs fois. Et ils en ont sorti très récemment. Et le Jean-Pierre qui a pris 30 ans, et bah, il est encore très très bien.
si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vidéo des show notes. Apparemment, vous serez
ça vaut le détour.
Récompensé. Exactement. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois d'avoir participé. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Salut.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.